Le journal, Charlotte Piré. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. Chaque année un peu plus tôt, chaque année un peu plus inquiétant, le jour du dépassement à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit sur les ressources naturelles. Deux ans après Irma, la lente et difficile reconstruction de Saint-Martin où 95% des habitations ont été détruites. Dans l'actualité du jour également, des déchets organiques qui pourrissent depuis deux ans au Sri Lanka, déchets illégaux venus de Grande-Bretagne. Pénalisés mais pas sanctionnés, les enseignants qui ont rechigné à rendre leur copie du baccalauréat pourraient ne subir que des retenues financières. Les pompiers en grève, trop peu nombreux, trop souvent appelés. Et puis Game of Thrones, objet d'une tapisserie bientôt exposée à côté de celle de Bayeux.
Notre invité à 8h10 ce matin, Sébastien Boller, qui est docteur en neurosciences. Et avec lui, on reviendra sur ce sujet que vous évoquiez. Charlotte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. À partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit sur les ressources naturelles de notre bonne planète.
France Inter. Ce n'est pas une, mais deux planètes Terre qu'il nous faudrait pour vivre, en témoigne cette date fatidique qui arrive chaque jour un peu plus tôt, beaucoup trop tôt, le jour du dépassement, ce jour à partir duquel nous avons officiellement épuisé les ressources que la nature met un an à renouveler et qui nous fait donc vivre à crédit sur le dos de notre planète. Maureen Sugnard.
Dès aujourd'hui, nous avons déjà consommé plus de poissons que ce que les océans peuvent renouveler en une année. Même chose pour les stocks de bois ou encore les terres cultivables. Et ce n'est pas tout, assure Arnaud Goffier, co-directeur des programmes au WWF France.
C'est aussi la date à partir de laquelle nous aurons émis plus de CO2 dans l'atmosphère que ce que la planète est capable de capter via les océans et via les forêts et les terres notamment. Le CO2 supplémentaire que l'humanité va émettre jusqu'à la fin de l'année restera dans l'atmosphère et participera au réchauffement climatique.
Ce jour du dépassement ne fait qu'avancer dans le calendrier. Il était le 29 septembre il y a 20 ans et la France ne fait pas partie des bons élèves.
Si toute l'humanité vivait comme la France, le jour du dépassement ce serait le 14 mai. Et si tout le monde vivait comme nous, il nous faudrait l'équivalent de quasiment trois planètes.
Pour Arnaud Goffier, les citoyens ont leur rôle à jouer, mais l'impulsion doit venir de la classe politique.
Les trois quarts de la baisse des émissions sont essentiellement entre les mains des décideurs politiques. C'est pas en signant des accords commerciaux comme le CETA ou le Mercosur sûr qu'on va faire baisser les émissions de CO2. Donc il faut prendre des mesures assez drastiques.
Pour WWF, l'urgence est de réduire les émissions de CO2 et ainsi de respecter les accords de Paris, en misant notamment sur les énergies renouvelables et en révolutionnant le secteur des transports.
Le dérèglement climatique et ses conséquences dévastatrices, plus d'épisodes de canicule, on vient de le vivre, plus de sécheresses, d'ouragans, de tsunamis. Il y a deux ans à Saint-Martin, le passage de l'ouragan Irma faisait 11 morts et détruisait près de 95% des habitations. Leur reconstruction est toujours un lent et difficile processus. La préfecture présente en ce moment son plan de prévention des risques naturels à la population, avec au cœur de ce plan la question de l'habitat dans les zones les plus dangereuses. Thibault Lefebvre.
Le plan est pire qu'Irma, ce sont les mots d'Angèle Dormois, la présidente de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Et les élus locaux sont sur la même ligne. Il y a une dizaine de jours, ils ont voté contre à l'unanimité. Derrière cette opposition, il y a la crainte de subir des expropriations, car l'État ne veut pas de nouvelles constructions sur les littoraux classés en zone rouge et rouge foncé. Pour les autorités, la vocation du plan n'est pas d'exproprier, mais d'informer. Elle précise qu'il sera notamment possible de consolider l'existant sur les zones dangereuses à condition de respecter certaines normes, comme l'obligation par exemple d'installer les chambres au-dessus de la hauteur maximum de montée des eaux. L'État a aussi l'intention d'inciter, sans forcer, avec la mise en place d'un système d'aide financière pour permettre aux sinistrés de quitter les littoraux. Le problème, c'est que ces aides ne concernent que les Saint-Martinois assurés et ils ne sont que 40% sur l'île. Le plan de prévention des risques naturels est pour le moment à l'état de projet. Il devrait être validé après une enquête publique au plus tard fin décembre.
Thibault Lefebvre, une fusillade a fait trois morts à Ollioules dans le Var, dans ce qui était probablement un règlement de compte lié au trafic de drogue. Deux hommes, vraisemblablement ciblés par les agresseurs, ont été tués, mais également la passagère d'un scooter qui passait par là. Son mari, le conducteur, a quant à lui été blessé.
Et puis une fusillade en Californie également.
Encore peu d'éléments sur ce qui s'est réellement passé lors du Gilroy Garlic Festival. Ces animations et concours de cuisine près de San Jose, mais on compte au moins trois morts. Les premiers témoignages évoquent un tireur blanc d'une trentaine d'années. Il est toujours en fuite. La Chine, acculée, est contrainte à répondre au moins médiatiquement au mouvement de protestation à Hong Kong. Deux mois de manifestations chaque week-end. Des dizaines de milliers de personnes qui bravent les interdictions, défilent et défient le gouvernement local qu'ils estiment maritime à la botte de Pékin. Pékin qui, face à l'aggravation de cette crise, a annoncé une conférence de presse aujourd'hui. Non merci, vos déchets très peu pour nous, quand le Sri Lanka refuse 111 conteneurs britanniques remplis de déchets entreposés sur le port de Colombo depuis près de 2 ans. Les autorités sri-lankaises ont finalement opté pour un retour à l'envoyeur, notamment quand elles se sont rendues compte que ces déchets en question provenaient d'hôpitaux et de morgues. Sébastien Farcy.
Officiellement, les conteneurs exportés de Grande-Bretagne contiennent des matelas. En réalité, à l'intérieur se trouvent des déchets médicaux, seringues usagées, morceaux de tissu humain et même des organes amputés. Cela fait près de 2 ans qu'ils sont entreposés sur le port de Colombo. Ces matières organiques sont donc en train de pourrir et pourraient s'écouler vers les ruisseaux voisins ou dans l'océan Indien, posant ainsi un grave risque sanitaire. Selon un responsable du port cité par un journal sri-lankais, ces produits dangereux, exportés illégalement de Grande-Bretagne, devaient être réexportés, peut-être vers un pays asiatique voisin, comme les Philippines ou la Chine, dont les gouvernements se plaignent de plus en plus d'être devenus la poubelle des pays occidentaux. Londres a du reste lancé une enquête sur l'origine de ces déchets biomédicaux. Son service public de santé peine en effet depuis des années à traiter ces restes. L'entreprise jusqu'alors en charge du traitement de ces déchets vient de perdre le contrat pour leur exploitation, car elle ne serait justement plus arrivée à s'en débarrasser. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Ce qui ressemble à une brusque allergie, mais pourrait très bien être dû à un empoisonnement du principal opposant russe, Alexei Navalny, de nouveau emprisonné pour avoir appelé à une manifestation interdite par les autorités, a été victime d'un violent urticaire hier. Son médecin, qui n'a pas été autorisé à le voir, mais à qui il a décrit ses symptômes, évoque la piste d'un empoisonnement à l'aide d'une substance chimique inconnue. Au Nigeria, le bilan de l'attaque perpétrée samedi, vraisemblablement par Boko Haram, s'élève désormais à 65 morts, tués alors qu'elles assistaient à une cérémonie de funérailles et probablement en représailles contre le meurtre de 11 combattants du groupe terroriste et la saisie de fusils automatiques par les habitants de ce village du nord-est du pays.
7h37, le journal Charlotte Piret. Charlotte, retenue financière en vue pour les grévistes des copies du bac.
Pénalité financière, mais pas forcément administrative, car le ministre tente de rétablir le dialogue pour une rentrée plus sereine. Il achève une série de rencontres avec les représentants syndicaux, rencontres au cours desquelles il a donc été question, outre la rentrée, de la réforme du lycée. C'est donc de ce mouvement de contestation du mois dernier au cours duquel les enseignants ont refusé de rendre leur correction des épreuves du baccalauréat. Enseignants qui pourraient finalement être considérés comme grévistes et donc échapper aux sanctions. Manuel Ruffez.
Tous les syndicats l'ont noté et le rapportent. Il y a chez le ministre une volonté de reprendre le dialogue. Il a même accepté d'entendre, raconte un participant, que la profession avait développé à son égard un certain nombre de tensions. Un autre affirme, le ministre a surtout peur que la rentrée ne se passe pas bien. Alors voilà, des sanctions il y en aura, mais au ministère ce n'est pas le terme qu'on utilise. Il s'agira de retenues sur salaire, vous explique-t-on, mais des retenues normales en cas de grève. Chaque jour de retard dans le rendu des copies, les dernières sont arrivées 6 jours après la date prévue, sera considéré comme un jour de grève, des jours décomptés sur les fiches de paye d'août ou septembre. Le ministre avait aussi parlé de sanctions administratives. Pas de précision sur ce sujet, si ce n'est que s'il devait y en avoir, ce ne serait qu'au cas par cas et surtout au rectorat directement de s'en occuper.
Leur grève à eux a été moins retentissante, car le mouvement des pompiers se poursuit depuis la fin du mois de juin. Des soldats du feu qui n'en peuvent plus d'être appelés sur tout type d'intervention, incendie certes, mais pas seulement, comme en témoigne Julien Bayle, pompier à Périgueux et vice-président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers de Dordogne.
On se rend compte que l'État, depuis des années, n'avait pas les moyens en face des besoins. À l'heure actuelle, les pompiers sont le seul service qui répond oui presque tout le temps, puisque les autres services sont capables de dire non. Donc nous, on n'a plus les moyens humains de répondre à la sollicitation opérationnelle. Il y a des interventions que l'on fait et qui ne sont pas à nous. Les ivresses sur voie publique, qui sont des missions de police secours et auxquelles ils n'ont pas les moyens humains non plus de les faire, et donc c'est nous. On fait également serrurier, on fait des fois plein d'autres métiers et on fait de l'aide à la personne également, beaucoup, du relevage. Et toutes ces missions qui n'étaient pas là il y a 15 ans se retrouvent à ce que ce soit les pompiers qui les fassent. Ce que l'on demande, c'est tout simplement d'avoir les moyens d'y répondre. Si la politique locale, notre employeur décide qu'on doit faire ces missions, il faut qu'on ait les moyens de le faire.
Julien Bayle au micro d'Antoine Balandra. Les nouvelles règles de l'assurance chômage officialisées par le gouvernement, elles entreront en vigueur en novembre prochain et prévoient des indemnités dégressives pour les gros revenus supérieurs à 4 500 euros bruts, mais affectent aussi les petits, car pour les travailleurs précaires, intérimaires, le montant des indemnités sera désormais calculé sur l'ensemble des jours ouvrables et non pas seulement en fonction des jours effectivement travaillés. Dans cette même logique d'économie, il faudra travailler 6 mois au lieu de 4 actuellement pour bénéficier de l'assurance chômage. Et à la fin, c'est Ineos qui gagne. 7 victoires en 8 Tours de France pour l'équipe britannique, anciennement Sky et aujourd'hui Ineos, avec hier le maillot jaune pour le Colombien Egan Bernal, 22 ans à peine, plus jeune gagnant du Tour de France de l'histoire au terme d'une 106e édition qui restera dans les annales comme celle qui a passionné bien au-delà des amateurs de petites reines.
Il est 7h40, Charlotte, quand la tapisserie de Bayeux inspire les amateurs de séries télévisées.
Jon Snow, Daenerys, Cersei, les dragons, les loups-garous, encore les marcheurs blancs, bien entendu. Ils sont tous là, tous les personnages de la série Game of Thrones. Les amateurs auront reconnu 8 saisons, 73 épisodes rassemblés sur une tapisserie tissée en Irlande du Nord où de nombreuses scènes de la série culte ont été tournées et bientôt exposées à Bayeux auprès de son illustre ancêtre, Léa Dubost.
Sur la tapisserie Game of Thrones, on voit tous les détails des 73 épisodes, du sang, des épées, des dragons, tissés et brodés à la main. Toute une aventure pour Finola O'Mahony, directrice Europe chez Tourisme Irlande.
On m'a fait travailler une société en Angleterre, en fait, pour tisser le lin irlandais. Et ça a été brodé par des brodeuses de Belfast qui ont des expertises.
Les créateurs se sont inspirés de la célèbre tapisserie de Bayeux datant de 10 siècles de moins. Et les deux œuvres seront bientôt réunies en Normandie. Un voyage symbolique parti d'un simple commentaire Facebook.
C'était le musée de Bayeux qui nous avait fait félicité de notre travail, donc on a saisi l'occasion, on s'est mis en contact et donc on a pu mettre en place ce projet. C'est vraiment de faire connaître les liens entre notre tapisserie, le tapisserie de Bayeux, mais aussi de faire parler l'artisanat.
Et ce voyage événement de la tapisserie a d'autres objectifs, notamment pour la ville de Bayeux et Loïc Jamin, son maire adjoint en charge du tourisme et des musées.
Faire venir un public tout à fait nouveau qui viendra justement pour la tapisserie Game of Thrones, mais qui sera aussi peut-être intéressé à voir l'œuvre originelle.
La tapisserie Game of Thrones sera visible à Bayeux dès le 13 septembre, un événement très attendu par les employés municipaux, quasiment tous fans de la série.
Un reportage signé Léa Dubost.
C'était le journal de Charlotte Piret. La circulation, Pierre-Antoine Lefort. Il y a la circulation qui a repris presque normalement sur l'A1.
Oui, cette nuit, un accident a causé d'importants ralentissements dans la Somme au niveau de la sortie 12 en direction de Paris. Eh bien, les voies sont désormais dégagées. Cette fois, à l'est, un accident sur l'A26 au nord de Troyes en direction de Calais, à Saint-Rémy-sur-Barbuise exactement. Une voie est neutralisée. Et puis sur l'A7 en direction d'Aix-en-Provence, débouche peu après le péage de Lançon dans les deux sens suite à un accident dans une zone de travaux. 2 km de ralentissement vers Aix, plus de 5 km si vous vous rendez vers Salon de Provence.